France Musique.
Merci Philippe Cassard, bonne fin d'année et surtout à la semaine prochaine, enfin l'année prochaine, pour des nouvelles notes du traducteur.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Le cri du patchwork.
Dernier cri de l'année 2014, dernier cri au cœur de l'écoute. Chers écouteurs, bienvenue dans les méandres du cri du patchwork, à la recherche de pourquoi et de parce que de nos musiques contemporaines. Notre mois de décembre a vu défiler devant le micro Michel Ris et ses décors sonores, Magali Vialfon et l'écoute des personnes en situation de handicap, ainsi que Grégoire Lorieux et ses paysages composés avec l'ensemble Ars Nova et des lycéens. Et chacun nous a entrouvert leur mode d'écoute pour que nous apprécions mieux le nôtre. Aujourd'hui, pour finir en beauté, nous recevons Mathias Forge, tromboniste et improvisateur, qui nous offrira une part de sa longue réflexion sur notre écoute, notre capacité à entendre. Une sorte de test de votre oreille, comme de la mienne. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son ausculté au bistouri. Le cri du patchwork, thème numéro 4, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. La respiration, avec cet aller-retour entre inspiration et expiration, qu'elle soit humaine, comme dans cette apostille à la robe de Colin Roche en 2006, ou instrumentale. Par exemple, faire respirer un violoncelle, c'est le rendre encore plus humain. Dans la robe des choses, Colin Roche donne à entendre l'infime respiration de l'archet frotter verticalement sur les cordes de l'instrument. Respirer, c'est déjà créer une dramaturgie sonore. Il y a toujours un amont et un aval, une narcisse et une thésis, un mouvement ascendant et descendant, enfin, appelez-les comme vous voulez, mais respirer, c'est déjà imposer une trajectoire à une composition musicale. We'll be right back. amplifier la respiration du tuba par le microphone en l'alliant à un mouvement général de l'ensemble l'entourant. Peter Hudvus, dans Chinese Opera, ouvre son opéra chinois imaginaire par des respirations, des allers-retours, comme s'il levait des rideaux de couleurs dévoilant la scène de son spectacle. Et le tuba, au centre de la scène, devient le protagoniste d'une musique écrite autour de son vent, de sa respiration. Utiliser la respiration, c'est aussi fouiner dans les halètements, l'hyperventilation ou la respiration du petit chien. John Cage se délecte des possibilités de la voix sans la voix, mais uniquement par le souffle rendu sonore dans ses voiceless essais pour bande magnétique. Transposons ces multiples souffles et respirations à l'orchestre. Heinz Holliger et son Atembogen frôlent constamment l'extinction, comme si l'expiration était à chaque fois une petite mort.
Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes.
Et si le son du vent tel qu'il ouvre apostrophe de Frank Zappa en 1974 était finalement une respiration? Souvent, on entend ces allers-retours, le vent venant du lointain, s'approchant, puis s'éteignant progressivement. Une respiration de la nature, en somme. We'll be right back. L'opéra baroque et ses scènes obligées de tempête ont provoqué l'invention de machinerie capable de reproduire les sons de la nature. Plaques de métal pour le tonnerre, timbales pour le grondement et le tremblement de terre, et bien évidemment la machine à vent, consistant en un rouleau de tissu entourant une structure de bois. Celle-ci tourne par l'action d'une manivelle, et le frottement du bois contre le tissu crée alors le son du vent. Il n'y a, à ma connaissance, aucune partition pour machine à vent à l'époque d'Alcyone de Maramarais, que nous venons d'entendre. Mais on imagine très bien les musiciens de l'époque chercher des artifices pour créer encore plus l'illusion du théâtre baroque. Il est des instruments qui permettent de faire le son du vent, mais sans le vouloir. Comme cette apo qu'utilise Robin Hoffman dans cette œuvre pour cet instrumentiste, Loken. Au départ utilisée pour attirer les oiseaux tétralyres, cette apo est fréquemment détournée pour imiter le vent. Et si le vent pouvait chanter ? Dans le temple de Tanalot, sur l'île de Bali, se dressent une dizaine de hautes perches de bambou, les sunari. On dit qu'elles sont la voix du vent, car seul le vent en joue. On appelle ces installations mises en vibration par le vent des orgues éoliennes. L'homme, à partir du moment où il a installé les bambous, n'a plus d'action sur la musique qui sera jouée. Le vent devient alors un compositeur aléatoire. On compte aujourd'hui nombre d'installations in situ qui permettent au vent de s'exprimer musicalement. Bambou dans la forêt, orgue éolienne ou sculpture sonore peuplent les environnements sonores de quantité d'endroits en Europe. Comme si nous avions besoin d'observer ce que la nature nous dit de la musique. Max Eastley, dans ses Wind Flutes Urban, installé en 1975, laisse faire le vent dans ses sculptures sonores. Encore faut-il avoir du vent. Comme dans Volumina de Ligeti, pour grandes orgues. À la toute fin de l'œuvre, le soufflet de l'instrument est débranché et le son de l'instrument se meurt, dans une dernière expiration. À l'image de cette récitation de Georges Apergis, qui demande à l'interprète de la réaliser dans le temps d'une seule expiration, ou lorsque l'air, nous manquant, permet d'entendre une autre de nos voix, sans aller-retour.
Heurt, heurt, lutte, corps, heurt, lutte, corps, lutte. Heurt, lutte, corps, cœur, heurt. Lutte, corps, cœur, up, heart. Lutte, corps, cœur, up, have. Corps, cœur, up. Heurt, lutte, corps, cœur, up, have lost. Corps, cœur, up. Heurt, lutte, corps, cœur, up. Up, have lost. Have lost et more hurt. Have lost. Lutte, corps, cœur, up, have. Lost. Lost et more lutte, hurt. Potest. Lutte, corps, cœur, up, have. Potest more. Lutte, post et more lutte, a string. Potest more lutte. Hurt and hope, lutte, une. Mon lutte. Corde, mon cœur and harp. Mon lutte, have lost et mon lutte, a string. Lutte, my heart and harp, mon lutte, a une corde que mon cœur, a string and harp have lost et string. Mon lutte, a string.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Thank you.
Mathias Forge, bonjour.
Bonjour.
En venant avec une pièce de Phil Niblock, Trombone Peace, c'est comme ça qu'elle s'appelle, vous faites une expérience avec nous.
Ouais, je fais une expérience. Alors, bon, c'est toujours un peu évidemment dramatique quelque part de ne pas prendre le temps d'écouter la pièce dans sa globalité. Mais l'expérience que j'aime bien faire, c'est l'après de cette pièce. J'ai l'impression que ce genre de travail, ça peut, comme j'aime bien dire, nettoyer comme ça. C'est-à-dire que ça prend l'espace et à partir du moment où on coupe, j'aime assez bien la sensation de l'après, qui laisse place au reste, quoi. Et je trouve ça assez savoureux, voilà.
Parce qu'il faut dire, le silence n'est pas écrit dans la partition, c'est vous qui avez demandé à couper le morceau, un silence qui révèle en fait énormément de choses, encore une fois.
Ouais, j'aime assez bien cette sensation-là, ce cut qui permet d'ouvrir sur le reste, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et qui, moi, me fait entrer dans la perception, quoi, dans l'ouïr du paysage, de ce qu'il y a autour.
Alors Mathias Forge, je vous ai invité aujourd'hui justement parce que vous utilisez des termes comme l'ouïr, la perception, l'écoute constamment, puisque vous faites par exemple des stages actuellement. Quel écoutant je suis ? Alors quel écoutant vous êtes, vous ?
Ben, je pense que si je pose la question dans un stage, je me la pose aussi à moi. J'ai aucune prétention de pouvoir apporter des réponses, c'est plus comme une sorte d'enquête pour moi. C'est un peu du coup d'essayer de voir, de mettre des gens en situation d'écoute et de voir cette perception, cet outil qu'on a, quel moteur d'invention ça peut être, dans quelle qualité il nous met, comment il nous mobilise, comment il sollicite le corps pour ça, comment... Voilà, j'aime assez bien ça et j'aime bien du coup observer des écoutants et voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se destine chez eux. C'est un peu d'explorer différentes qualités d'écoute et de voir à quoi elles donnent lieu dans des situations qui peuvent être extrêmement banales, comme une conversation, comme une promenade, voir quel type de promenade elle dessine, quel type de trajet, quelle marche, quel rythme dans la marche, quelle attention, quelle... Sans plus regarder le jeu que ça invente, mais déjà juste les prémices du jeu chez chacun, chez des danseurs, des musiciens, voilà, j'aime assez bien ça.
Est-ce qu'il y a différentes manières d'ouïr, alors ?
Certainement. Alors, je suis pas sûr de ce que je vais raconter, heureusement.
Oui.
mais en tout cas, il y a ces trois mots, il y a ouïr, entendre et écouter. Et moi, pour ces stages-là, qui en plus étaient des stages, en tout cas le premier était un stage de 3 jours, j'ai eu plaisir à faire correspondre, voilà, comme 3 strates d'écoute, qui sont vraiment comme une première écoute qui est une écoute très naïve, très... une écoute un peu désintéressée, comme
ça. Qui serait le ouïr, alors ?
Qui serait le ouïr, qui serait quelque chose comme laisser rentrer dedans. Voilà, juste observer qu'on sait faire ça. Et l'étape 2, ça serait plus celle dont on parlera un petit peu plus tard, du coup, avec les expériences que je propose, c'est l'écoute de la perturbation, l'écoute de l'événement, qui est plus celle, pour moi, du sauvage, un peu, comme ça, l'écoute de l'animal. Et la troisième, moi, je dis l'écoute du compositeur, c'est celle qui fait la musique, quoi. C'est celle qui fait le voyage parmi toutes ces strates d'écoute et qui dessine la musique. J'entendais, là, du coup, dans une des émissions, Michel Risse qui disait comment chaque auditeur est auteur. Voilà, bah, y a de ça, en tout cas, pour moi, dans cette dernière strate d'écoute. Et je suis surtout pas en train de dire qu'il y a que ces 3 strates-là. C'est vraiment, j'imagine qu'il y en a 15 000 autres, mais c'est celle que j'ai eu plaisir à observer, quoi, et à mettre en situation.
Parce que vous êtes donc observateur d'écouteurs, mais vous êtes aussi musicien, ça je l'ai pas précisé, vous êtes tromboniste, improvisateur. Est-ce qu'on peut dire performeur aussi ? C'est un terme qui vous va ou pas ?
Oui, c'est un terme qui me va dans le sens où ça me permet de pas dire danseur, qui est un mot avec lequel j'ai un peu de mal. Du coup, en tout cas, j'ai plaisir à parler par moment, à bouger, et puis des fois à faire des sons. Donc du coup, on n'a qu'à dire performeur comme ça, oui.
Je vous propose, on va vous attendre ici dans un duo qui est en fait un trio, ouais, que vous réalisez avec Jean-Léon Palandre et Léo Dumont. Et là, vous êtes au trombone, donc. Et c'est un enregistrement un peu brut, parce que c'est fait dans un espace un peu brut.
C'est ça.
Mathias Forge, nous sommes en train d'écouter un duo en trio, on pourrait dire ça, avec Jean-Léon Palandre, Léo Dumont et vous-même. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette performance musicale où on ne sait plus très bien qui est-ce qui joue quoi, où on n'arrive plus à discerner quelle est votre action finalement de musicien dans cet espace sonore?
Avant de parler de ça, j'ai juste envie de présenter un petit peu dans quel cadre ça s'est fait. C'était un projet qui s'est passé près de Rouen, là d'où je viens, quoi, là où j'ai grandi. On a passé 2 ans voilà, sur ce territoire, à se mettre en situation de jeu, à se mettre en situation d'écoutant auprès de gens qui habitent là-bas, pour différentes raisons, qui a donné lieu à l'édition d'une carte postale sonore. Et cette pièce-là qu'on vient d'écouter, c'est une trace, on va dire, de ce travail qu'on n'a pas édité sur le disque, pour plein de raisons, mais en tout cas qui, moi, m'a vachement saisi à l'écoute, parce que, justement, il y a ce doute où on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est de l'ordre du paysage, on ne sait plus ce qui est de l'ordre des instruments. Le paysage, en plus, avec ce petit écoulement, et puis la départementale au loin, moi, me fascine assez. Du coup, voilà, c'est un drôle de moment, même, même en réécoutant, là, maintenant, je me rends compte qu'il y a... Il y a des moments où je ne sais même plus si on joue ou si on joue pas. Et j'aime assez bien cette chose un peu incertaine comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas bien, mais ça crée une attention, quelque chose qui fait qu'on est aux aguets. On est aux aguets, mais on ne sait pas.
Alors vous avez dit un terme, c'est des cartes postales sonores. C'est-à-dire que c'est tout un projet, il s'appelait Taco, donc qui a été édité en disque. Ouais. Et c'est pendant plus de 2 heures et 10 minutes de musique, en fait, où vous avez plusieurs cartes postales. Où se place l'écoutant?
Où se place l'écoutant là-dedans?
Est-ce que c'est le micro ou bien est-ce qu'on doit se balader, aller chercher, être à la pêche au son?
Ben là, ce qui est amusant en tout cas dans la situation qu'on entend, c'est qu'il y a, ce que nous propose Jean-Léon avec les micros. Néanmoins, il y a 3 écoutants qui sont en jeu là-dedans. Et du coup, ça fait cette proposition, j'allais dire cette musique, c'est presque, je sais pas si c'est prétentieux de le dire, mais ça fait ça en tout cas. Le résultat est celui-ci, quoi. Mais on est les 3 à l'écoute. On n'a jamais travailler tous les 3 dans une situation comme celle-ci avec des auditeurs.
C'est pas une situation de spectacle en fait.
Non, on en a eu, mais sur un mode plus frontal où on jouait avec les traces justement de Jean-Léon, plus nous remettant en jeu par-dessus.
C'était une recréation en fait de
voilà,
paysage.
C'est ça. Par contre, avec Léo, on a gardé un peu évidemment ça en mémoire et ça fait un certain temps qu'on travaille justement à inventer dans des situations de concert ce genre de saveur, d'humeur.
Là, vous êtes plus soliste, vous n'êtes plus instrumentiste finalement, quand vous jouez dans des paysages comme ceci.
Ouais.
Vous n'avez plus le même statut que lorsque vous êtes improvisateur sur une scène pour une autre musique.
Pas sûr.
C'est vrai.
Parce que la situation d'improvisation, elle se passe dans un contexte et que, en tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à tenter de le considérer par un biais ou par un autre. Alors ça peut être en décidant de mettre les enceintes de ci ou de là, mais c'est aussi un endroit où il y a des auditeurs qui des fois font du bruit, et des fois il y a une ventilation, et des fois, et voilà. Et tout ça c'est un contexte, et en tout cas j'ai toujours l'impression de partir de dedans, quoi, mais de pas me poser de manière trop volontaire en tout cas, de pas coloniser trop l'endroit. De le regarder, de l'écouter, et de dire ah voilà, c'est ça le jeu à jouer, aujourd'hui c'est celui-ci, quoi.
Un musicien ne peut pas juste jouer, il doit écouter ce qui se passe dans la salle, finalement.
Ben, moi, j'aime assez ça, oui. J'aime bien sortir des concerts en ayant l'impression de partager le même endroit que les musiciens qui étaient au plateau. Ouais, j'aime bien ça, ouais.
dans ce qu'on vient d'écouter dans votre duo, donc Léo Dumont, pris donc en mise en son, on pourrait dire, par Jean-Léon Palandre. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on se place quand on est écoutant entre le ouïr, l'écouter et l'entendre?
Alors ça, j'en sais rien. Je pense qu'on navigue, parce que je pense que là, justement, c'est, on est dans la presque voilà l'écoute du compositeur, où j'ai l'impression qu'on navigue entre vraiment une écoute très très large, très ample. Et puis on resserre, et puis il y a des événements qui nous saisissent, et puis du coup j'ai l'impression qu'on navigue entre tout ça. Mais j'aurais tendance à dire que ça part de la situation vraiment du ouïr, quoi. Une écoute assez naïve, quoi. Mmh. Ouais.
On n'est pas dans l'analyse du compositeur.
Non, je crois pas. Ou pas au début en tout cas. Et après peut-être on trouve des appuis dans le paysage. Mmh. On dit ah, il y a ça. Et là du coup l'écoute elle commence à se préciser. Parce que c'est en plus c'est après les stages, je me suis rendu compte que l'oreille, c'est qu'un organe de sélection, quoi. Et puis elle est en trois parties, puis ça fait que sélectionner, quoi. Jusqu'à après le cerveau qui en remet une couche. Du coup, il ne reste plus grand-chose du ouïr, quoi, à la fin, oui. Finalement. Du coup, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on navigue, quoi. On fait un peu. Et il y a une autre chose que je voulais dire, qui est certainement anecdotique, mais c'est juste par rapport à ce qu'on vient d'entendre, qui se passe, du coup, comme je disais, près de Rouen. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que c'est un endroit où on n'emploie pas le mot entendre. On dit écouter pour tout.
D'accord.
Voilà, on dit toujours écoute voir la voiture qui passe. On dit
écoute voir. Cette expression est géniale.
En tout cas, le mot écouter, parce que je me rends compte que je fais la faute tout le temps, et du coup, je me dis ah bah c'est bien, tiens, ça vient me conforter dans ce qui m'anime.
Et dans le rapport à l'entendre, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce rapport d'une couche de perturbation. Ici, est-ce que vous voulez perturber l'écoutant lorsque vous jouez comme ça dans un espace, ou bien perturber le paysage sonore? Est-ce que vous entendez une réponse, justement, par la perturbation?
Ce qui m'amuse assez, moi, c'est dans ce genre de situation, c'est comment, justement, déjà, qu'est-ce qui fait événement et qu'est-ce que ça change? Quand je dis perturbation, c'est parce que j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression qu'après un événement, là c'est très concret, c'est pas pareil.
Oui.
Ça, justement, Jean-Léon, il a écrit un article que j'aime bien à ce sujet où il parle de l'écoute et il dit que c'est une perturbation du milieu, c'est un changement du milieu. Il y a quelque chose qui change de l'air, il y a quelque chose. Du coup, je pense que nous, en tant que musiciens, on passe notre temps à proposer des perturbations. Et à surfer sur ce qu'elle crée, quoi, sur ce qu'elle génère, sur comment voilà, il y a un événement et du coup ça crée autre chose derrière. Il y a une autre écoute où voilà. Et j'aime assez bien ce genre d'écoute là, celle de l'événement.
On bascule. Est-ce que c'est des moments par exemple de switch, comme on dit en anglais aussi, c'est-à-dire on passe d'un mode d'écoute à un autre, d'un mode de jeu à un autre, c'est-à-dire des modes d'improvisation, soit par la perturbation on cut, c'est-à-dire on coupe complètement son impro pour passer à autre chose, ou bien est-ce qu'on s'en inspire pour aller plus loin dans son discours?
Je sais pas, parce que là, comme on en parle, ça fait comme une logique de construction. Et que moi, du coup, j'ai l'impression que c'est plus l'état dont je parle. Cet état-là de l'écoute un peu... Je dis l'écoute du sauvage, parce que pour moi, c'est être alerte. Et du coup, pour l'avoir observé, là, notamment dans les stages, ça crée une attention qui fait que tout d'un coup, tout peut faire événement. Et en effet, c'est peut-être... Oui, c'est des bascules. Et c'est des bascules d'état aussi. Il y a quelque chose vraiment de... C'est le son comme signal, quoi, comme une info. Et c'est assez... Pour avoir observé, du coup, pas mal d'écoutants en essayant de créer ce genre d'état, de qualité d'écoute, on voit assez bien comme ça saisit, comme le corps, il bouge, du coup, suivant les événements, où ça vient piquer. Voilà, là, voilà. C'est assez clair.
Ça pique. Mais là, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Et je pense que là, on rentre justement dans ce rapport à la perturbation.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis en train d'essayer d'analyser les sons qui sont diffusés dans le casque, parce que pour tout vous dire, les auditeurs, je ne connais pas le morceau qu'on est en train d'écouter. Et donc, en essayant d'analyser les sons, essayer de les reconnaître,
ouais,
je finis par perdre du sens, en fait, dans ma parole.
Ah, mais...
Est-ce que, pour vous, c'est une manière de montrer que l'oreille peut prévaloir sur le rapport au sens, à la sémantique?
En tout cas, j'ai l'impression que ce qui fait événement dans l'oreille, ça vient bouger quelque chose dans l'état. Donc peut-être, en l'occurrence, là vous y perdez vos mots. mais ça peut être aussi vraiment des bascules de corps, comme je disais. Enfin, ce qui est pareil. Parce que, voilà. Moi, je m'en prends aussi. Même en connaissant la musique, du coup, je me prends au jeu. Et j'aime vraiment bien cette chose-là que ça invente, quoi. Que ça... Comment ça vient nous titiller à l'épaule, enfin vraiment, comment ça bouge l'auditeur, comment ça bouge comment ça bouge l'humain, comment ça bouge le type qu'on est, comment ça bouge la marche, comment ça bouge l'humeur.
Oui, ouais, parce que là on est sur un accord consonant, on pourrait c'est dire ça. Quelque chose de très joli tout d'un coup, alors qu'il y a des moments où ça pique, comme c'est vous ça. Disiez. Quand vous faites vos stages, est-ce que vous voyez des vraies réactions différentes en fonction du passé, de la culture de la personne ? Ouais. Par exemple, s'il est danseur, musicien, enfin...
C'est évident qu'on voit assez vite comment, dans un endroit, un environnement, qu'est-ce qui fait événement pour qui ? Il y a vraiment... Et avec des gens qui peuvent s'autoriser à rentrer vraiment dans des événements du tout petit, et même comme tout d'un coup, on est dans un carrefour, et il y a, il y a quatre feux rouges en même temps. Du coup, il n'y a plus de voiture qui passe. Et tout d'un coup, le silence de ça fait événement. Et il y en a pour qui, ça va être que ce qui sort du lot en termes de volume et qui va les mettre dans quelque chose de très alerte, de vraiment d'une bestiole, quoi. Et ça, pour revenir peut-être à la question du jeu ou de l'invention ou de la création, j'ai l'impression que ça ancre les gens là où ils sont. Ça nous donne à voir du ici maintenant. Ça donne de l'épaisseur à la présence là où on est. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi, que j'aime bien.
Les personnes réagissent différemment à différentes sources sonores. Là, par exemple, l'enregistrement qu'on entend, c'est des sons qui peuvent très bien, pour moi en tant que musicien, me faire penser à de la cousmatique, à des pièces d'un Pierre Henry, tout d'un coup un autre artiste. Est-ce qu'on a ce rapport d'identification justement à des sons ? Est-ce que les gens mettent des mots pour s'identifier à des sons ?
Est-ce que les gens mettent des mots ? Je sais pas trop.
Est-ce que les mots sont importants pour vous d'ailleurs ?
Pas nécessairement. En tout cas par rapport à je crois que ce qui m'intrigue c'est plutôt comment s'autoriser à cette expérience, à cette à plonger dans cette perception, qu'est-ce que ça invente pour chacun. Après il y en a pour qui les mots vont surgir et tant mieux ou tant pis, peu importe, mais il y en a pour qui ça va vraiment être des jeux de corps, et comme en effet ce qu'on écoute ça ressemble pour Clément Lebrun à de la musique acousmatique. Pour d'autres, il y en a qui vont faire 10 pas en arrière pour s'éloigner de ça. Et puis, enfin, il y en a que ça va intriguer. Il y en a, voilà. Et j'aime vraiment les trajets que ça invente, la rythmique que ça invente chez chacun. Le type de présence, quoi. Ça m'intrigue.
Alors, je vous propose, vous êtes venu avec une autre expérience qu'on va peut-être faire tout de suite parce que ça m'intrigue aussi, parce que je ne suis pas prêt pour cette expérience, je vous le dis franchement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va se passer, en fait ?
Ouais. Alors, c'est tout frais. C'est quelque chose que j'ai exploré, du coup, pendant ces stages. Le principe, c'est qu'on va mettre une pièce dans vos oreilles. Et ce que je dis, c'est chantonner son écoute. C'est vraiment comme... on peut le faire vraiment pas très sonorisé à l'échelle, vraiment d'un murmure intérieur. Mais c'est vraiment imiter, comme les onomatopées, le parcours que fait l'écoute.
D'accord.
Alors le principe de ça, c'est qu'on va vous mettre la pièce... Fermer les yeux, c'est le plus simple, et se mettre dans un flux, vraiment se laisser voyager la voix qui va imiter là où se situe plus ou moins l'écoute. Ça vulgarise évidemment un peu, mais ça donne à entendre quand même une version de l'écoute de Clément Lebrun de la pièce qu'on va découvrir en même temps, en parallèle. Quoi.
D'accord, je suis prêt.
Thank you.
Mathias Forge.
Clément Lebrun.
Alors, qu'est-ce que ça donne en fait de l'extérieur? Parce que je m'entends pas en fait le faire à moitié, cet exercice. Qu'est-ce que ça vous donne à entendre, vous, en tant qu'observateur?
Alors, j'ai l'impression, bah, par exemple, on pourrait le refaire avec Perrine, là, du coup, et on aurait encore autre chose. D'une part, parce qu'elle n'a pas la même voix, mais d'autre part, j'ai l'impression que enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est que, ça évidemment, soyons d'accord, ça vulgarise un peu, mais ça nous donne quand même quelques clés sur le trajet que peut faire l'écoute. Alors évidemment, il y a la contrainte de l'imitation de la voix, et puis
de pouvoir faire plusieurs sons en même temps.
Ça, ouais. De la pudeur, de tout ça. Mais même sans faire plusieurs sons en même temps, on voit quand même les moments où il y a plusieurs paliers et où il y a de l'hésitation et on ne sait plus à quel endroit donner de l'attention. Quoi.
Moi, en tant que joueur, par exemple, j'avais ce moment de « Ah mince, j'ai loupé tel son, ah mince, voilà, j'ai loupé tel voilà. son ».
Mais ça, on le voit quand même. Ouais, on l'entend peut-être pas à la radio, mais en tout cas, on le voit. On voit qu'il y a des hésitations, on voit que ça palpite d'être partout, de pouvoir donner partout. Surtout, moi, quand on a fait ça, donc pour le premier stage que j'ai donné là au mois d'octobre, pour moi, ça a été c'est ce dont je parlais de l'écoute du compositeur. Quoi. C'est vraiment à ce moment-là où pour moi, c'était très concret. Je me suis dit, mais en fait, en tant que musicien, on ne fait que proposer des situations et on n'a aucune prise sur la musique qui s'invente. Quoi. C'est vraiment, il y a autant de musique qui s'invente que de gens qui sont là. Et surtout, en plus de ça, je me suis dit, on a en fait... On a les moyens de faire la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait, tout le temps au quotidien. On a, si on rentre dans ce flux là, la musique, elle, voilà, on peut faire ce voyage là tout le temps. Et en fait, presque des fois, je me suis dit, il y a des situations de concert qui appellent moins cette musique entre guillemets intérieure. Mais du coup, voilà, c'est ça qui m'a fasciné, quoi. C'est vraiment le trajet que fait chacun, parce que du coup, je l'ai fait avec plusieurs stagiaires, et vraiment, ça pouvait passer du tout au tout avec des gens qui étaient que sur les événements, des gens qui pouvaient bloquer pendant des plombes et des plombes sur la route bicyclette qu'on entend et tout ça à certains moments. Vous voyez, j'ai trouvé ça très, à la fois vulgarisant, mais en effet très parlant du pouvoir qu'on a en tant qu'écoutant à sélectionner et à faire la musique. Quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoi.
Je vous propose de nous retrouver un de ces jours pour faire la même expérience sur du Xenakis ou du Schockhausen, parce que je pense qu'on aura des bons résultats aussi. Et que voir comment les gens peuvent entendre justement un contrepoint hyper complexe, parce qu'on n'arrive pas de toute façon avec nos oreilles à pouvoir entendre justement la complexité générée par des compositeurs de cette génération-là. Merci beaucoup Mathias Forge d'avoir accepté cette invitation, parce que vous nous avez ouvert les oreilles. Et je propose aux auditeurs de vous suivre, parce que vous avez une actualité quand même foisonnante en tant qu'improvisateur par exemple. Alors on peut retrouver sur le label Metamkin et WeDear, donc qui sont des labels réunion d'artistes, donc les différents albums que vous avez pu réaliser comme Taco, donc, dont nous parlions tout à l'heure, mais également avec la compagnie Jeanne Simone. Donc vous faites un autre stage qui s'appelle La ville à bras le corps, qui a commencé cet automne, et donc qui est aussi une manière de montrer comment le corps écoute dans un espace public, c'est en l'occurrence. Et puis de la même manière, on peut vous suivre aussi en tant qu'instrumentiste tromboniste au sein de l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp, qui tourne un peu partout en France actuellement, mais dans un tout autre entendre.
C'est ça.
Merci beaucoup Mathias.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
En 1968, j'ai publié un petit livre qui s'appelle Le paysage sonore.
The word soundscape,
cette expression,
is
paysage sonore,
equivalent of the word landscape in English, and is derived
c'est un équivalent direct du mot landscape, paysage,
it's
en anglais.
Neologism. It does not exist in the English
c'est un mot inventé.
It did not until 1968.
Et ça n'a pas existé auparavant.
And yet it seems to be a necessary, definition.
Mais ça me semble une définition nécessaire
the acoustic environment
pour décrire l'environnement acoustique.
The fact that we never had a word to describe
le fait qu'on n'a jamais eu un mot pour décrire justement cet environnement
or in any other European
ni en anglais, ni en autre langue européenne, suggère justement qu'on a vécu dans un monde surtout dominé par le visuel. Maintenant, il y a un intérêt croissant sur le monde acoustique.
Zoom sur le Wolf Project de Raymond Murray Schaeffer. Soundscape. Nous n'avons pas de mot équivalent en français. Nous le traduisons uniquement par paysage sonore. Lorsque Raymond Murray Schaeffer aimait l'idée de prise de conscience de notre paysage sonore, il est déjà compositeur. Dans une tradition classique, utilisant les instruments et les voix de manière traditionnelle. Mais en se posant comme auditeur actif de nos paysages sonores, Murray Schaeffer redistribue les rôles entre compositeur, musicien, interprète et auditeur. And wolf shall inherit the moon. Et loup héritera de la lune. Un titre qui ouvre l'imaginaire, une forme de conte comme épilogue au chef-d'œuvre de Raymond Murray Schaeffer, Patria, commencé en 1966. Plus connu sous le nom de Wolf Project, cette œuvre, si on peut l'appeler comme ça, rejoint toutes les idées et concepts que le compositeur canadien développe depuis les années 60. Le Wolf Project est un rituel d'une semaine, réalisé tous les ans en août dans la réserve naturelle de la forêt de Haliburton, dans l'Ontario. 64 participants partent alors camper sur 4 sites différents dans la réserve. Avec chacun un rôle précis et des partitions précises à interpréter, avant de tous se rejoindre à la fin de la semaine.
I had studied composition, music composition, of course, and I regarded myself as a composer.
J'étudiais la composition musicale et je me considérais comme un compositeur. Mais j'enseignais dans une nouvelle université à Vancouver et j'étais embauché par le département de communication pour cet enseignement. Je n'y connaissais pas grand-chose en matière de communication, mais j'étais très proche de Martial McLuhan, qui a réalisé beaucoup d'études en matière de communication, comme chacun le sait. En particulier, je voulais étudier la communication acoustique, toutes les sortes de communication acoustique, les conversations entre les gens, le son qui nous entoure, le son produit par l'environnement, les sons du passé, les sons du futur.
Le Wolf Project est bien plus qu'une œuvre d'art. C'est l'apothéose des théories sur l'art de Murray Schafer, qu'il regroupe sous l'expression « le théâtre des confluences », où se rencontrent musique, synesthésie et rituel dans un cadre sauvage, déconnecté de la civilisation contemporaine. Avec cette idée de provoquer des changements existentiels chez les participants de ce théâtre idéal. Chaque matin est jouée une obade pour une voix ou un instrument soliste, près d'un lac, tandis que tous les participants observent le silence, auscultent le silence, le réveil de la nature. Et chaque soir, un nocturne lui répond, pour taire la parole humaine, déployée toute la journée, pour que la nature reprenne ses droits sonores. Des témoins parlent de ce son fantôme, qui continue longtemps après la dernière note du nocturne, comme si les sons instrumentaux se voyaient réappropriés par les animaux et les éléments, pour que le son redevienne vibration naturelle. Obade pour clarinette, comme le brouillard au-dessus de l'eau. Écrite pour être jouée uniquement dans un cadre naturel, la musique du Wolf Project cherche à provoquer la réponse des champs, des lacs, des forêts et des rochers. Murray Schafer résume ainsi son intention. Nous ne voulons pas tenter de changer les choses, nous les laissons nous changer. Le rituel se termine lorsque les instruments solistes se rejoignent. Pour résonner ensemble, faire résonner ensemble un espace d'écoute qui redeviendra ensuite vierge. Une sorte de forêt vierge de l'écoute. Nos cris sur l'écoute s'achèvent ici, entre les paysages sonores de Murray Schafer et le nettoyage de nos tympans, dont nous parlons fréquemment depuis 4 mois maintenant. Une manière de renouveler nos oreilles avant une nouvelle année de cris et de patchwork. Un grand merci à Perrine Mingui qui réalise chaque semaine cette émission tout en collage et sursaut. Sans oublier Flora Sternadel qui fouille les archives de l'INA et de Radio France pour y trouver des pépites en écho à nos thèmes loin des sentiers battus. Nous avions aujourd'hui à la technique Philippe Bredin. Je vous conseille de réécouter les émissions de ce mois de décembre sur le site de l'émission, mais aussi en les podcastant. À condition que vous le fassiez à rebours. Et vous verrez qu'une conclusion est aussi une bonne introduction. Rendez-vous l'année prochaine dans 7 jours pour un nouveau thème placé sous le signe des sciences, ou comment mathématiques, physique et acoustique alimentent les musiques de création. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et n'oubliez pas de crier.
Si je fais 1, tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
Il est 17h, l'heure de retrouver All That Jazz. Bonjour Arnaud Merlin.